RTL.
Imaginez une seconde que ma veste m'informe en temps réel de la quantité de calories que je brûle ou que je viens d'ingurgiter. Une idée un peu folle. Pourtant, des scientifiques, et ils sont nombreux, travaillent sur les nouveaux vêtements, des textiles intelligents aux propriétés inédites.
C'est ce t-shirt qui nous permet, grâce à des capteurs de sueur, de connaître toute information venant de la sueur.
Déshabillez-moi.
Thomas Hugues. Sidonie Bonnec.
Déshabillez-moi.
La curiosité est un vilain défaut.
Qu'allons-nous porter dans 5, 10, 20 ans? C'est la question qu'on pose à notre invité Olivier Lascar. Bonsoir.
Bonsoir Sidonie, bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et
à tous. Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir. Alors on va parler de plus de science, on va dire, que de mode finalement ce soir, même si ça fait partie de la mode. Mais aujourd'hui, quelle est la fibre la plus exploitée, celle qui constitue en grande partie nos vêtements?
Alors c'est le polyester qui a été découvert dans la première partie du XXe siècle.
Ouais.
Ça apparaît vers 1950 en France. Et aujourd'hui, ça, quand on regarde tous les textiles synthétiques qui sont utilisés dans nos vêtements, ben le polyester est employé dans 70% d'entre eux. Donc c'est effectivement le produit numéro un. Mais c'est un dérivé du pétrole.
Ah oui, là, comment il est produit? Racontez-nous.
Ouais,
c'est ça le problème. Comme tous les plastiques, ça vient d'un certain type de raffinement du pétrole. Et donc, ça pose plusieurs problèmes en termes de pollution, évidemment, puisque le polyester, c'est lui qui est incriminé dans les pollutions aux microplastiques, dont on parle beaucoup, qu'on peut retrouver dans les cours d'eau, la mer, les ruisseaux, etc., mais aussi dans l'air. Donc, c'est une source de pollution importante. L'autre problème, c'est que, comme ça vient du pétrole, on sait qu'on est dans la problématique de la raréfaction du pétrole. Le pétrole aura une fin, on le sait. Est-ce que ça sera dans 15 ans, dans 20 ans? Il y a encore du flou là-dessus, mais ça va se terminer. C'est pour ça aussi qu'il y a toute cette réflexion à côté des problématiques environnementales sur les alternatives au pétrole. Mais donc, cette combinaison de la pollution plus le fait que c'est une denrée qui va disparaître, il faut trouver une alternative.
Mais est-ce qu'on prépare déjà? Est-ce qu'on sait par quoi il pourrait être remplacé? Ou est-ce qu'il a quand même encore, on va rentrer dans les détails après, mais quelques années, pour ne pas dire quelques décennies d'avenir?
Il a encore quelques beaux jours devant lui. Ouais. C'est pas demain la veille qu'on va tous être habillés en peau d'ananas, comme on va le dire
plus tard. On va parler de ça, oui.
Des choses de ce goût-là. C'est intéressant, c'est des voies qui sont exploitées aujourd'hui. Dans les labos de recherche, il y a beaucoup de prototypes qui sortent. Mais il faut toujours un petit peu se méfier des effets d'annonce sur cette question comme sur toutes les autres. Puisque quand un produit est conçu en labo, ça peut être très séduisant. Mais il faut attendre 5 ans et de nombreuses améliorations pour pouvoir arriver à un produit qui soit industrialisable et fabricable à grande échelle.
Non polluant, super résistant, intelligent, à quoi ressembleront vraiment les vêtements du futur? C'est le titre du dossier à lire sur scienceetavenir.fr en partenariat avec RTL. Et justement, dans les alternatives, on trouve cette fameuse peau d'ananas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la peau d'ananas?
C'est une sorte de cuir, un cuir vegan, comme on dit maintenant, qui est utilisé, qui est fabriqué, non pas à partir du fruit, mais à partir de ses feuilles. C'est intéressant puisque du coup, c'est une façon de réutiliser ce qui est de toute façon des déchets dans les plantations d'ananas. On aurait normalement jeté les feuilles, maintenant on a trouvé le moyen de les exploiter différemment pour faire un textile qui n'est pas tissable, qui ressemble à du cuir, mais il est imprimable, on peut le coudre, on peut le découper.
Il est solide donc ?
Il est solide, il a des bonnes caractéristiques techniques, physiques, de résistance, et on peut faire avec lui des instruments de maroquinerie.
Des chaussures peut-être même.
Des chaussures, des tennis, etc.
Chaussures, alors, fibres d'ananas.
Non mais ça c'est pour bientôt Olivier Lascar.
C'est déjà pour maintenant, on peut s'acheter dans des boutiques un petit peu chic, des produits comme cela. Ça, c'est déjà une réalité. Il faut dire que ça vient d'une tradition ancienne, puisque aux Philippines, depuis longtemps, des tuniques traditionnelles avec un nom extrêmement compliqué que je n'ai pas retenu sont...
On va pas essayer de le dire non plus.
Construites avec la fibre qui vient des feuilles d'ananas.
Ouais.
C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et une entrepreneur espagnole a découvert ça. elle a fabriqué à partir de cette substance un nouveau tissu qu'elle a appelé le Pignatex. Et c'est ce produit qu'on retrouve maintenant dans ses chaussures, ses portefeuilles, ses vestes qu'on peut acheter.
Olivier Lascar, donc ça c'est une alternative. Il y a aussi les alternatives que l'on cherche au coton, parce que le coton c'est très polluant de produire du coton. Et alors là, on se tourne vers la fibre de lait. Expliquez-nous ça.
Oui, alors par rapport au coton, rapidement, on a évalué que pour fabriquer 1 kg de coton, il faut utiliser entre 6 000 et 27 000 litres d'eau, suivant les cultures. Alors pour ce qui est du lait, effectivement, le lait contient une protéine qui s'appelle la caséine. Et en traitant le lait avec des substances acides, c'est pas du vinaigre, mais équivalent, on peut détacher la molécule de caséine du reste du liquide pour la transformer en une sorte de poudre qui va ensuite être agglomérée pour faire des fibres qui peuvent être tissables et faire un produit qui va ressembler à la soie. Et là aussi, c'est quelque chose qui existe dans le commerce. Il y a des marques italiennes qui sont lancées sur ce créneau. Ça existe, c'est pour de vrai.
Bon, Thomas, si je vous habillais de laine de coco, avec un petit bonnet en algues,
j'adorerais ça.
Vous voulez découvrir votre nouveau
très, très
dressing,
mignon,
votre dressing futur. Il y a notre productrice.
On veut voir les photos.
Lutigny qui est dévastée. À tout de suite.
De rire.
J'aimerais savoir maintenant si, tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du Kawé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'horrible Kawé. En matière chiffonnée, rouge, orange, bleu, blair. Blair, c'est une couleur entre bleu et vert. Mais qui c'est qu'il a inventé ce Kawé? Faut l'enfermer, ce type-là! Je le connais pas, l'inventeur du Kawé, mais ce que je sais, c'est qu'il avait pas de cou, hein. Ah bah oui, parce que quand tu tournes la tête en Kawé, la tête, elle tourne et pas la capuche.
Non, le job s'habille plus en Prada.
Les curieux sont sur RTL.
Le job s'habille plus en Prada.
Extrait du sketch de Danny Boone sur le Kawé. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Et on ouvre la penderie du futur sur RTL dans la curiosité avec Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Vous avez commencé à nous décrire quelques-unes des alternatives au polyester et au coton.
Moi, j'ai une veste en peau d'ananas, par exemple.
Oui, parce qu'on a appris que ça pouvait devenir du cuir, la peau d'ananas, la fibre d'ananas. Et donc, il y a aussi d'autres matières végétales qu'on peut utiliser comme alternative au coton, lesquelles?
Oui, oui, la nature est pleine d'idées. Hein. Les algues, par exemple, qui ne servent pas qu'à faire des sushis, puisque quand on couple l'algue avec de la cellulose, un dérivé du bois, on peut obtenir aussi des textiles qui sont employable pour faire des vêtements. Ouais. Un autre exemple assez intriguant, c'est la noix de coco. La bonne vieille noix de coco, elle peut servir quand on utilise ses fibres et qu'on les fait fermenter et qu'avec une combinaison très particulière, évidemment, on les mélange à des bactéries, ça donne aussi des fibres textiles qui sont employables dès aujourd'hui dans des vêtements.
Alors Olivier Lascar, l'idée évidemment c'est de fabriquer des vêtements plus éco-responsables, et pour fabriquer des vêtements plus éco-responsables, il faut qu'ils soient plus solides, qu'ils s'abîment moins, qu'ils se tachent moins. Qu'est-ce qu'on est en train d'inventer autour des nanomatériaux pour nos vêtements ?
Alors d'abord nano, c'est quoi ce fameux nano ? Nano, c'est le nanomètre, c'est une échelle de mesure. Hein. Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. Ça veut dire que ce sont des matériaux qu'on arrive à façonner à cette échelle-là de la matière. Les scientifiques arrivent à manipuler maintenant, molécule par molécule, certains matériaux pour les employer dans les vêtements. Un exemple assez connu maintenant, ce sont les nanoparticules d'argent ou d'or, qui peuvent être encapsulés à l'intérieur des fibres pour leur donner des caractéristiques extraordinaires, notamment pour tuer les bactéries. Puisqu'on a déterminé que les nanoparticules d'argent, par exemple, ont le pouvoir, en gros, de crever la membrane extérieure des bactéries et de les faire mourir. Alors, c'est un scénario qui peut paraître très très intéressant, mais qui a aussi ses limites, parce que d'une part, ça marche pas forcément sur le long terme. On s'est rendu compte que les nanoparticules d'argent, au début, elles font ce que je viens de décrire, mais au bout d'un moment, ça peut produire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elles vont rendre captives les bactéries à l'intérieur de la maille.
Ouais, c'est presque du Coluche. Oui, c'est vrai, il est très bon ce sketch de Coluche, on pourrait le retrouver d'ailleurs. On imagine qu'on va moins laver nos vêtements Et finalement, peut-être qu'en fait, ils vont sentir le je sais pas quoi, le cochon grillé, quoi. Vous voyez ce que
oui, c'est, il faut slalomer entre plusieurs écueils. Le problème aussi des nanoparticules d'argent, c'est que on s'est rendu compte que ça pouvait avoir des effets très dommageables sur la nature et sur l'environnement. Ça crée un nouveau type de pollution qu'on n'avait pas appréhendé jusqu'à présent. Alors, on essaye d'aller vers d'autres pistes, toujours à l'échelle du nanomètre. On parle de nanogel, par exemple, qui auraient les mêmes vertus, mais sans les effets négatifs sur la nature que je viens de citer.
Toutes ces infos passionnantes, on les découvre, Olivier Lascar, dans ce dossier qui à lire dans scienceetavenir.fr. Non polluants, super résistants, intelligents, à quoi vont ressembler les vêtements du futur. Et on découvre dans cet article les super matériaux. Ce sont quoi? Des textiles super héros, c'est ça?
C'est vraiment, c'est la penderie de Superman et compagnie. Oui, on voit arriver des textiles avec des propriétés mécaniques.
Par exemple, en Australie, en 2019, qu'ont présenté des chercheurs australiens pour, on va dire, lutter contre les morsures de requins?
Ils ont imaginé un textile qui résiste à la morsure. Alors, ça a été expérimenté en labo, hein. Ils n'ont pas mis un petit baigneur avec les dents de la mer.
Il n'y avait pas de volontaire, c'est marrant.
Non, c'est difficile à trouver. Mais en laboratoire, ce textile-là ont des propriétés mécaniques extraordinaires qui font que le textile ne rompt pas, mais va se déformer jusqu'à finalement servir de bouclier pour la personne qui le porterait. En Australie, qui est très en avance sur la question des super textiles, on a aussi mis au point et on commercialise des maillots de bain qui réagissent aux UV et qui finalement sont comme des avertisseurs du taux d'UV auquel on est soumis. Ils changent de couleur, donc c'est le moment quand le maillot a changé de couleur parce qu'il y a eu trop d'UV, c'est le moment où il faut remettre de la crème.
Bon, et Olivier Lascar, vos nanoparticules qui nettoient le vêtement sans le nettoyer, évidemment c'est du Coluche, on a retrouvé un extrait du sketch.
Alors l'autre a dit, ben oui, regarde, je prends mon torchon, il y a un gros stage, je fais un nœud. Un nœud en plus. Je fais un nœud, je mets la machine, je sors la machine, je défais le nœud, il n'y a plus la grosse tache. Et l'autre, elle sciait. C'est aussi propre qu'avec l'ancien homo quand on faisait pas le nœud.
Voilà, c'est du Coluche et nous, on continue de découvrir les vêtements du futur grâce à Olivier Lascar. Et si nos vêtements ne se trouaient plus?
Le rêve.
Bah oui, textile révolutionnaire à venir sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Lassage automatique, waouh!
La curiosité est un vilain défaut?
C'est pas du tout ma taille.
Ouais, ouais. Faites.
Sur RTL.
Ta casquette, fais voir. Parfait. Retourne tes poches de pantalon. Dans le futur, tous les jeunes portent leurs pantalons à l'envers.
It's hip to be square.
Retour vers le futur où on découvre, donc il part de 85, il arrive en 2015 et il va découvrir un peu tous les vêtements du futur, des chaussures qui se lassent.
Mais c'est drôle d'ailleurs parce que les industriels ont essayé de copier certaines des trouvailles des scénaristes et des réalisateurs de Retour vers le futur.
Les chaussures, ça a été la course. Hein, ouais. Comme le film est situé en 2015, pendant des années, les grands équipementiers annonçaient la chaussure qui se lasse toute seule pour 2015 et chaque fois ils lançaient des prototypes. Qui marchait pas. Hein.
Bah oui.
Donc non, elle existe toujours pas. Hein.
Et puis Olivier Lascar aussi, on parlait beaucoup de, je me rappelle, dans les années 2000, j'étais si jeune, on parlait des vêtements connectés, on allait tous avoir des vêtements connectés, on n'en voit pas des vêtements connectés aujourd'hui en 2020.
Ouais, ça c'était l'image du t-shirt avec des diodes, on aurait pu liser Science et Avenir ou écouter RTL, c'était très chic.
Transformé en écran publicitaire.
Voilà, mais non, ça n'a pas marché. Alors ça, en tout cas, pour l'instant ça ne marche toujours pas. Ça montre en tout cas la problématique du matériel, parce que pour faire fonctionner quelque chose comme ça, je discutais avec une chercheuse, Claire Elliott, qui me disait je vais pas me balader avec un sac à dos pour alimenter mon t-shirt. Comment on alimente? Quel type de batterie peut fournir une énergie suffisante pour des textiles comme cela? Alors il y a des solutions, il y a des modèles qui existent. Par exemple, Ralph Lauren commercialise une grosse doudoune qui est chauffante. Il y a un revêtement en fibre d'argent qui a la particule, vous savez, c'est comme les couvertures de la NASA en argent qui permettent de conserver la chaleur du corps. Comme il y a un revêtement en argent, ça conserve la chaleur du corps, mais comme l'argent est un métal, il peut aussi conduire l'électricité. Et donc, avec une petite batterie, on fait chauffette, quoi.
C'est drôle.
Et ça existe aussi. Mais ce sont des rares exemples. Le vêtement connecté tel qu'on se le représentait il y a une quinzaine d'années, quinzaine d'années, pardon, non, il n'est pas arrivé.
C'est plutôt sur les matériaux, parce que vous nous disiez que l'évolution est la plus sensible. Vous nous avez parlé de comment les chercheurs travaillent sur des fibres à partir d'ananas,
de lait,
d'algues, de coco, etc., de noix de coco. Et Sidonie tout à l'heure disait un vêtement qui ne se troue pas. Moi, je rêve de ça. Effectivement, ça peut exister. Ça existe déjà.
Ça existe aussi. Ça existe. C'est une start-up du côté de Bordeaux qui commercialise ça. L'inventeur de l'armalite s'appelle Pierre-Henri Servageant.
Armalite.
L'armalite, oui. L'armalite, c'est le nom de ce textile qui ressemble à du jean. À l'œil nu, c'est du jean. Mais c'est 5 fois plus résistant que le Kevlar. Ça paraît stupéfiant, mais c'est parce que là aussi, on a réussi, enfin cet inventeur-là, M. Servageant, a réussi à manipuler la matière à une échelle intime et est parvenu à tresser en quelque sorte le coton avec
Donc c'est du végétal.
Il y a du végétal, mais pas que. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Il y a aussi du plastique, il y a du polyéthylène. Et c'est ce plastique-là qui confère à la matière des capacités mécaniques extraordinaires. Alors un chiffre, c'est que c'est destiné avant tout, alors c'est pas pour les bricoleurs.
C'est professionnel, non ?
Ça peut être professionnel, mais c'est essentiellement pour les motards. Le public visé est celui des motards. Parce qu'il a chiffré qu'en cas de, en cas d'accident en deux roues, si on fait un dérapage au sol à 30 km/h, eh bien, l'armalite, il reste solide, il ne se trouve pas avant 7 secondes. Un jean normal, ça va se trouver en 2 secondes. Donc évidemment, ça protège les jambes du pilote. Mais évidemment, c'est du plastique. Ça, c'est embêtant. Mais ce que me disait l'inventeur, c'est qu'il orne déjà une autre solution, qui est celle du fil d'araignée. Puisqu'il y a une solution qui existe, c'est le fil d'araignée, qui a des capacités mécaniques extraordinaires.
Et qui sont solides, bien sûr.
C'est solide. Et si on pouvait mettre des fils d'araignée avec des fils de coton, on aurait un jean absolument incassable. Le problème, c'est que pour traire les araignées, on n'y arrive pas encore. Et on a bien essayé avec des fermes. Mais ça
elles
marche.
Sont rétives.
Elles se mangent entre elles. Donc la ferme a une durée de vie assez limitée.
Une dernière info, Olivier Lascar, puis après les auditeurs pourront compléter en lisant votre dossier dans scienceetavenir.fr. C'est cette cape d'invisibilité qui est développée pour le secteur militaire.
Alors là, on est pas encore vraiment dans le textile, parce que le produit tel qu'on peut le voir dans des vidéos qui sont quand même assez étonnantes, ça ressemble plus à une plaque de plastique qui pourrait servir presque à recouvrir une fenêtre. Donc la lumière perce à travers elle, mais quand un objet est placé à une distance assez proche de cette plaque de plastique, il disparaît littéralement. C'est-à-dire que si on pose cette plaque sur une table et que au milieu, derrière la plaque, il y a, un casque de foot américain, c'est ce qu'on voit sur la vidéo, et ben le casque disparaît littéralement. Il est devenu invisible.
Alors,
on n'est pas dans Harry Potter, mais
pas loin.
Pas loin.
Plein d'autres inventions comme ça sur notre garde-robe du milieu du 21e siècle, peut-être même bien avant.
On y va rapidement, là. Oui.
Sur Science et Avenir, en partenariat avec Cartel. Merci et à très bientôt.
Merci à vous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.